qui...
La prison a détruit nos vies, brisons, détruisons toutes les prisons.
Le reflet a remplacé le musée, mal l'effet que progrès.
Le temps ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle à lier. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, 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 les cris et les plaintes des forces modernes? À quoi bon crier dans cet univers déshumanisé? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois vous clôner. Mais quel est le mot de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous en va poser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre des barons.
Courez bien vite, sinon on va vous massacrer.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Bonsoir, nous sommes donc le 19 juillet et il fait chaud, c'est les vacances et vous n'avez pas un rond pour partir ailleurs. Alors Bruit de tôle se met en quatre. Et nous allons beaucoup voyager aujourd'hui, puisque nous allons commencer par partir en Grèce, où un mouvement s'étend dans toutes les prisons de Grèce. Après la Grèce, normalement on reste du côté de la Méditerranée, du côté de l'Italie. Oui.
Un doute sur la date.
On n'est pas le 19 juillet ?
Non, hier il y avait une manif Palestine le 16 juillet, aujourd'hui on serait le 17 peut-être.
Alors nous sommes le 17 juillet, il fait chaud à crever, vous n'avez pas le temps de partir, tous mes effets en l'air. Moi je suis fâché avec le calendrier, qu'est-ce que tu veux. Donc après la Grèce, on ira en Italie, c'est joli aussi l'Italie, et il y a aussi quelques actions qui se passent. Et puis vous avez toujours rêvé de partir au Mexique, Bruit de tôle vous y amène et vous fait la situation d'une dizaine de prisonniers libertaire au Mexique. La Bulgarie, c'est pas cher aussi, on en aura aussi pour des actions de soutien. Et puis comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Brésil, n'est-ce pas, dans l'actualité, on va justement vous livrer un livre qui s'appelle 400 contre 1, l'histoire véridique du commando Vermelho, qui vient de sortir ces mois-ci, et qui parle aussi de la prison au Brésil. Et puis comme le tourisme c'est aussi intérieur, comme le disait le ministre du tourisme, on a des nouvelles de Nantes, de Calais, et du tribunal de Bobigny, bien connu pour sa clémence. Voilà, c'est donc Bruit de tôle qui commence. On peut nous appeler si possible pendant les morceaux de musique au 05 61 53 36 95. Et bien tout de suite on part en Nebraska, tiens, avec le Père Ubu.
Drowning me.
Sur une grève de la faim dans les prisons. Ça se passe en Grèce et c'est une grève de la faim contre les prisons de haute sécurité. En fait, c'est le ministère qui veut créer une prison dans la prison, sans droit, sans parloir, sans travail, sans permission, nous disent ces prisonniers grévistes de la faim. Le gouvernement, en effet, souhaite, durant l'été, la création de prisons de haute sécurité qui limitent les droits des détenus. Alors, ils sont près de 4000 à s'être mis en grève de la faim pour dénoncer cette prison. Alors, leur déclaration, nous prisonniers commencerons dès le 18 juin une grève des plateaux en geste de protestation contre le projet de loi fasciste pour la création de prisons de haute sécurité de type C. Le ministère veut créer une prison dans la prison, sans droit, sans parloir, sans travail, sans permission. Son but n'est pas la correction, mais la vengeance et le châtiment. Quand on prive quelqu'un de son droit à l'espoir, la seule chose sûre est qu'on le rend encore pire. Les prisons de type C ne sont pas des prisons de haute sécurité, elles sont des prisons à haute désespérance. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard que le ministère de la Justice tente de faire passer ce projet de loi pendant l'été, pour qu'il ne rencontre pas les réactions non seulement des prisonniers, mais de toutes les personnes conscientes et sensibles. La grève des plateaux de 3 jours n'est que le début. Dans tous les cas d'intolérance de la part du ministère et du gouvernement, la lutte s'intensifiera. En Grèce, la peine de mort s'appelle désormais prison de type C. Lutte, résistance, dignité.
Et alors figurez-vous que la Grèce est un pays moderne. On peut suivre ça sur Twitter. Il suffit de taper @prisongr14. J'ai sous les yeux la carte des prisons grecques, sur tout le territoire de la Grèce, de la semaine dernière. Ça veut dire que là, ils sont plus 4000 en grève de la faim, ils sont plus de 4500. Ça touche une quinzaine de prisons. Les plus grosses, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais pour vous dire, les plus grosses, il y a 1500 détenus en grève de la faim, rien qu'à la prison de Korydallos. Korydallos, c'est Athènes. Voilà, c'est à côté d'Athènes. Dans le nord, ils sont 400 à Grévena. À côté de Salonique, ils sont 330 à Larissa. Ils sont 550 à Patras. Et alors, y compris, je ne savais pas qu'il y avait... Évidemment, il y a des prisons sur les îles, puisqu'ils sont 280 à Lacanée, en Crète. On n'a pas les chiffres communiqués, mais il y a refus de plateau à Halicarnasse, en Crète aussi. Ils sont 60, par exemple, à la prison de Kos, qui est une toute petite prison. Kos, c'est une île toute paumée en Asie mineure. Ils sont 120 sur l'île de Corfou, etc. Donc, c'est un mouvement qui touche toutes les prisons grecques massives et qui ne concerne pas les prisonniers, enfin qui ne fait pas de différence entre les prisonniers politiques et les droits communs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette grève qui continue à s'étendre sur le territoire grec.
Je crois que c'est important aussi de le dire parce que les noms que tu as donnés, Corfou, tout ça, c'est des destinations de vacances.
Ah, c'est le Club Med, ouais.
C'est le Club Med, c'est
Halicarnasse, Lacanée.
Voilà. Et savoir que là, il y a des prisons et qu'à l'intérieur, il y a des gens qui résistent.
Voilà.
Et donc maintenant, nous partons en Italie, à Turin. où il y a pas mal de luttes de quartier et où, dans ce cadre-là, il y a une rafle dans les milieux anarchistes le 3 juin dernier.
Oui, on en avait parlé, oui, sur l'antenne.
Oui, on en avait déjà parlé. Et donc, il y a une lettre d'un prisonnier, donc je vais vous lire. « Je m'appelle Nicolo Angelino. J'ai été arrêté mardi 3 juin à Turin durant une opération de police visant à briser la plus belle aventure de ma vie. Une illusion vaine de la part des procureurs. Depuis ce jour-là, je suis enfermée dans une cellule individuelle du bloc D, nettoyée, repeinte et parfumée, à en vomir. La porte blindée est ouverte, mais la grille est fermée 23 heures par jour. Elle s'ouvre et se referme seulement quand je sors pour faire mon heure de promenade. Parler avec les autres détenus à travers les barreaux est captivant, et malgré le fait qu'ils soient sympas, la gêne est ressentie des deux côtés. Je n'ai pas de complice et je n'ai pas non plus l'espoir d'en trouver. Quelques personnes sont en isolement, sous thérapie 24 heures sur 24. Les autres, ceux que je vois, sont des travailleurs. Ils jouissent du plus grand des privilèges que l'administration pénitentiaire puisse offrir et ils ne se mettront certainement pas en jeu pour moi. Les accusations pour lesquelles je suis soumis à des mesures restrictives particulières sont tellement légères que ça parle de soi. Je suis détenu et soumis au régime d'isolement spécial pour mes idées, pour m'isoler, me rendre inoffensif et pour m'empêcher de lutter. Demain, lundi 16 juin, je ne rentrerai pas volontairement de la promenade pour exiger que ma cellule soit ouverte durant la journée ou que je sois transféré dans une autre section ordinaire. La même chose se passera les deux jours suivants. Si au cours de cette protestation je suis puni par de l'isolement ou par l'interdiction de promenade, ou encore si je n'obtiens pas le résultat espéré, je commencerai une grève de la faim ce mercredi 18 juin. Non pas parce que mes conditions d'incarcération sont inhumaines, en désaccord avec quelques conventions des droits de l'homme ou parce que la façon dont ils me traitent est un abus de pouvoir de l'administration pénitentiaire, mais simplement parce que ça ne me va pas du tout. Je n'ai plus envie de demander à un maton si je peux avoir un fruit. Je veux pouvoir le prendre tout seul, quand ça me va, comme le font les autres. Je veux pouvoir parler aux autres détenus sans barreaux entre nous. Je sais que la grève de la faim ne me porte pas sur un terrain de lutte exaltant. Cependant, en isolement, avec l'absence de complices et la toute-puissance des gardiens, c'est le seul outil qui puisse faire basculer le rapport de force avec mes porte-clés. Je lutterai la tête haute et rassurée de votre chaleur, avec la même rage et la même sérénité qui, en d'autres temps et d'autres lieux, a été lancée contre des océans déchaînés bien plus grands que le bassin dans lequel je me trouve. De toute façon, ce peu d'eau finira dans la même mer et peu importe si j'obtiens ou pas ce que je veux. Ce n'est qu'en luttant que je veux vivre. Salut chaleureux à tous les prisonniers, feu aux prisons. » Et donc, Nicolo était donc en prison à Turin. Il n'est pas rentré de la promenade. Les matons l'ont donc ramené en cellule comme un poids mort. L'inspecteur l'a menacé de lui faire un rapport. Il a donc entamé la grève de la faim comme il l'avait dit. Il est depuis sorti de prison, mais a été assigné à résidence.
Oui, parce que petite précision, ces lettres datent du mois de juin, mais elles n'ont été traduites que... Non, la traduction française n'est arrivée que cette semaine. Dans la même rafle, Mariana s'est fait donc gauler elle aussi le 3 juin. Elle est à la prison de Vercelli. Autre lettre. Et si la peur changeait de camp, qu'est-ce qui étouffe chaque jour la liberté de circuler dans les rues du quartier? J'habite à Porta Padalzo. Et je croise inévitablement les rondes interarmées qui font la chasse aux sans-papiers, engagées dans un centre de rétention. Je tourne. J'arrive sur la place et joue un groupe de flics municipaux qui font démonter les stands des vendeurs de menthe à la sauvette. Ils font fuir les dames et les chariots remplis de pain, de msemen, de bottes. Je monte sur le bus 4 pour arriver rapidement jusqu'à Barrière et voilà les contrôleurs, agressifs, qui traquent et qui poussent dehors ceux qui n'ont pas d'argent pour le ticket. Il faut donc prendre le 51 qui est lent, moins fréquent, et blindé de monde. Alors qui menace et qui effraie les gens jour après jour? Les patrons font chanter. Soit tu acceptes d'être exploité, soit tu n'auras pas de boulot. Qui n'a pas envie d'être exploité tente le vol, l'arnaque, le braquage, ce qui fait planer sur chacun de ses gestes l'ombre d'une cellule de prison. Toujours plus fréquemment, les sous pour payer le loyer manquent. Et toujours, les proprios et petits patrons apparaissent pour menacer les locataires retardataires de les envoyer valser. Et puis la police vient défoncer la porte, jeter les valises sur le trottoir. Et enfin, arrivent les assistants sociaux et leur menace d'enlever les enfants aux parents considérés tellement mal avisés d'avoir décidé non pas de payer un proprio, mais de manger. Et si la peur changeait de camp? C'est ainsi que des possibilités se créent à partir de besoins partagés, de soucis communs, dialoguant entre eux, qui a déjà vécu des luttes et qui est agité à une suggestion à la bouche. D'un côté, La densité des expulsions locatives entre la Porta Palazzo et Barriera augmente. Il est toujours plus difficile pour ceux et celles qui peuplent le quartier de récupérer de l'argent. D'autre part, le processus de requalification nettoie et chasse. C'est comme ça qu'ils appellent la rénovation en Italie. Les immeubles sont rénovés et les loyers augmentent dans ces mêmes coins de ville. Pour défendre les maisons des expulsions locatives, des piquets devant les portes sont organisés, attendant l'huissier pour lui arracher un délai, à l'implication de la famille, des voisins et des amis. C'est dans ce lieu où se rencontre, où on se connaît, où se tissent, se resserrent les ententes et les complicités entre ceux qui sont expulsables et les autres. Là où débute un réseau d'aide mutuelle capable de se tenir debout tout seul. Une assemblée se forme pour s'organiser au niveau logistique, pour affronter les problèmes, les peurs, pour discuter les propositions, en se partageant les tâches et les responsabilités. Les voix qui prennent la parole sont toujours plus nombreuses. Qui savait déjà lutter laisse la place aux personnes directement concernées. Il n'y a pas de spécialiste en résolution d'expulsion locative, ni envie d'avoir le rôle d'un organisme d'assistance. On veut lutter ensemble, en tendant vers la réciprocité et vers des rapports égaux. J'ai connu les rues du quartier à travers la lutte. J'ai découvert comment m'orienter, quel raccourci prendre. C'est en vivant dans ces rues, en courant vers une maison menacée d'expulsion, en y retournant, en marchant, en faisant des manifs joyeuses, après avoir arraché un délai, énervé, lorsque quelqu'un était jeté à la rue. En plus de connaître vers où mes pieds m'amenaient sur le bitume, j'ai appris à connaître les visages et les lieux solidaires. Dans la chaleur de relations réelles, la lutte a grandi, en envenimant en même temps les inimitiés entre ceux qui veulent contrôler ce bout de ville et ceux qui sont à leur service. On prend un café dans le bar à côté de la barricade. On écoute les histoires de la vie ouvrière de Barrière racontées par la dame derrière le comptoir qui émigrait du Frioul, de Venise et de Giulia dans les années 50. Et peu après, en passant devant le serrurier qui n'arrête pas de collaborer à la police, les proprios, on lui fait la gueule, on lui lance une insulte. On n'a préféré rien demander à la mairie, on savait qu'elle avait peu à offrir et qu'elle aurait utilisé ce peu pour nous diviser. Certains ont essayé tout de même, ils n'ont rien tenu, à part le conseil de créer une association d'expulsés. Pour satisfaire directement le besoin d'un toit qui n'était plus là, on a occupé des maisons vides qui sont aussi devenues des lieux d'habitation, de rencontres, carrefour d'histoire, vedettes sur le quartier. Et oui, en s'organisant pour faire face à n'importe quelle éventualité, en élargissant, en approfondissant les rencontres, on déploie une force. On n'était plus tout le temps en échec, on réussissait à respirer plus aisément, en vivant comme il nous fallait, en commençant à parler de désir. Dans un monde à l'envers où les propriétaires ne reçoivent pas de loyer, où la police fait pas peur et où l'État est de trop. Et le 3 juin, la police fait irruption dans de nombreuses maisons, perquisitionne, procède à des arrestations. 111 personnes sous enquête. Toutes et tous luttent contre les expulsions locatives à Turin. 12 sont en prison, 5 assignés à résidence, 4 avec obligation de résidence, 4 avec interdiction de territoire dans la commune de Turin et 4 avec obligation de signer tous les jours au commissariat. Avec le nouveau plan de logement qui a été approuvé, il n'y a plus d'issue pour qui n'a pas d'argent pour le loyer. Avec l'augmentation des différences sociales, l'aiguisement du conflit entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui volent et ceux qui répriment, la meilleure solution qui a été conseillée et mise en place par ceux qui veulent que tout reste tranquille et en ordre, c'est de dégager les possibles catalyseurs de rage. Ceux qui ont l'expérience de la lutte, un conseil sur la langue et dans les mains des pratiques qui n'ont pas besoin des politiciens. Disperser les différentes personnes arrêtées dans des prisons qui sont loin de la ville où elles vivaient. Seules dans des établissements, éparpillant la région du Piémont, fait en sorte que les narrations et les outils s'atomisent. En enfermant d'autres maisons, en les éloignant de la ville, il s'est cassé la force et la possibilité de communication qui jusqu'à hier existait dans les rues de notre quartier. Les personnes dehors qui continuent à lutter n'auront pas le temps d'organiser par leurs sauvages dans les différentes prisons, mais réussiront-elles à être contagieuses avec leur courage et leur entêtement à continuer à lutter contre les propriétaires de la police? Je souris car je pense que oui. Et je pense à une nouvelle occupation. Signée Mariana. Mariana était donc en prison à Vercelli depuis 15 jours. Elle est en assignation à résidence, elle aussi.
Voilà, et il y a eu des actions de solidarité pour ceux qui sont restés à l'extérieur. Heureusement, il y en a encore. Et donc...
De la part de ceux qui sont restés... pour ceux qui sont de l'intérieur, les actions.
Voilà. Alors, il y a eu, par exemple, une attaque incendiaire à Rome contre une agence commerciale de l'entreprise de construction Projet Deal. Celle-ci, donc, a été incendiée et un message sur la façade disait « Liberté ». Donc, pour Fabio, Michele et tous les prénoms, ils étaient tous là, voilà. Et puis, dans la nuit du 18 juin 2014, c'est à Bologne, c'est les vitres de la banque Carichbo via dans la rue Fioravanti, à Bologne. Toutes les vitres ont été brisées et, en fait, on a précisé que cette banque est affiliée à Intesa San Paolo, est impliquée dans la construction de projets de grande envergure et de restructuration dans plusieurs territoires.
Quoi
donc, c'est en lien avec les attaques, la gentrification, l'urbanisation, etc. Et donc, ce contre quoi luttent les gens dans les quartiers, dans la lettre que tu viens de dire. Alors, en effet, le tribunal avait confirmé les mesures carcérales. C'est pour ça que toutes les mises en résidence surveillées, comme tu as dit là, ou ceux qui sont sortis de prison, sont malgré tout en résidence surveillée, et donc pas du tout libres. Alors après, j'ai entendu dans la lettre, tu disais qu'ils devaient aller au commissariat, aux gendarmeries tous les jours.
Certains, oui. Certains sont obligés de pointer tous les jours. Enfin, absolument.
Ouais, d'accord,
donc, s'ils n'ont pas envie de voir des flics, ils les verront quand même tous les jours.
Tous les jours, oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est là, c'est quelques actions qui ont été revendiquées, ou en tout cas qui ont été signalées en Italie.
Bon, ben, quelques petites nouvelles.
Au Mexique. Hein.
Ouais, quelques petites nouvelles qui nous arrivent du Mexique. Alors, ça vient de collectifs qui s'appellent L'Autre Campagne. L'Autre Campagne, on rappelle que c'est une plateforme de lutte, un essai de jonction de lutte qui a été à l'initiative des zapatistes, ça fait depuis 8 ans. Et là, il s'agit des cas de 9 prisonniers et prisonnières libertaires à Mexico, uniquement à Mexico. Alors, c'est assez croquignolé, vous allez voir que là aussi, ils prennent n'importe quel prétexte pour casser, quoi. Mais je précise que ces jeunes sont juste... Si on cite ces exemples, c'est parce qu'ils sont représentatifs de plein d'autres qui n'ont pas autant de monde derrière eux. Par exemple, Jorge Mario González García, qui est étudiant au Collège des Sciences Humaines de Naucalpan, qui a 21 ans et qui est un anarchiste bien connu des services de police, a été arrêté dans un transport public avec d'autres camarades quelques heures avant la manifestation commémorative du 2 octobre.
Ah, c'est du préventif, là.
Voilà. Alors, le 2 octobre, c'est le massacre 68 au Mexique, là où on a tué 400 personnes, où l'État a tué 400 personnes lors d'une manif. Et tous les ans, il y a des manifestations en disant « ça ne passe pas, on n'oublie pas ». Donc, il se rendait à la manif, et lors de son arrestation, il a été torturé par la police. Alors, quand je dis torturé, ça veut dire qu'il a 3 fractures, et on lui a appliqué la GIGN. On l'a torturé à l'électricité. Il a été condamné le 10 janvier 2014 à 5 ans et 9 mois de prison pour attaque à la paix publique. Et le 11 juillet 2014, la magistrate Marine Sasaki a édité une nouvelle sentence de... Alors sa peine a été réduite, il avait été condamné à 5 ans et 9 mois l'année dernière. Là c'est 5 ans et 1 mois et 15 jours de prison pour atteinte à la sécurité publique. Je rappelle qu'il n'était pas encore allé à la manif. Il se trouve actuellement donc dans la prison médicale de Tepepan, qui est une prison hôpital, parce qu'il est en grève de la faim lui aussi. Je vous donne un petit extrait de son communiqué. « Beaucoup de gens disent que personne ne peut rien faire contre le gouvernement ni en venir à bout, que mes objectifs sont utopistes et qu'il faut seulement me préoccuper de moi-même et que si je continue en agissant ainsi, je vais rester enfermé ou je vais finir par disparaître et mourir. C'est probablement vrai, mais partout où je regarde, je ne vois que la cruelle réalité dans laquelle nous sommes tous coincés. Les motifs de nous révolter ne manquent pas et les motifs pour être heureux ne manquent pas non plus. Je pense que vivre en se révoltant est une des bonnes manières d'être heureux, c'est pourquoi parfois je suis à l'aise malgré les conséquences. C'est le chemin que je veux prendre parce que pour moi, une petite dose de solidarité, de folie, de joie, de liberté donnera toujours plus de satisfaction qu'une vie pleine de regrets, de renoncements, de lassitude et d'oppression. » Ça, c'est le petit Mario. Abraham Cortés Avila, lui, c'est un artisan de 23 ans, originaire de l'état de Oaxaca, bien connu aussi parce que cet état était entièrement en révolte il y a maintenant 6 ans. Il a été arrêté le 2 octobre 2013, pendant la manifestation qui commémore la tuerie de Tlatelolco, dont je parlais précédemment. Il a été condamné le 2 juin dernier à 13 ans et 4 mois ferme pour attaque à la paix publique en bande organisée et tentative d'homicide. Je précise qu'il avait balancé des trucs sur les flics qui avaient attaqué la manif. Il se trouve dans la prison nord de Mexico. Ce 2 octobre dernier, d'autres personnes ont aussi arrêté. Certaines sont des militants bien connus, d'autres se sont simplement rendus à la manifestation et ont été arrêtés, raflés au hasard. Par exemple, José Alejandro Bautista Peña et José Daniel Palacios Cruz, qui ont été condamnés respectivement à 5 ans et 9 mois, 5 ans et 9 mois tous les deux, pardon, pour délit d'attaque à la paix publique en bande organisée et outrage à agent. Il se trouve dans la prison nord de la ville. Luna Flores, elle a été arrêtée le 10 juin lors d'une autre manifestation. Le 10 juin, c'était aussi un massacre d'étudiants qui commémorait à Mexico, 10 juin 71. Elle est accusée de faits. Elle a été arrêtée le 10 juin pour des faits qui remontaient au manif du 2 octobre. On n'a aucune information à son sujet. Sa situation juridique est floue et on ignore où elle se trouve. Enfin. Si, on sait qu'elle se trouve dans la prison de Santa Marta à Catitla, mais on ignore sa situation juridique. La détention de tous ces gens a donné lieu à un véritable lynchage médiatique. Ils sont vus tous accusés d'appartenir à des mouvements anarchistes, traités de voleurs et de casseurs dans tous les médias. accusés donc d'outrage envers agents, d'atteinte à la paix publique en bande organisée, José Daniel et Luna Flores attendent leur procès. Autre chose, Luis Fernando Bárcenas, libertaire bien connu, a été arrêté le 13 décembre dernier, accusé d'avoir brûlé un arbre de Noël de Coca-Cola. Il a été condamné donc à de la prison ferme pour attaque à la paix publique, association de malfaiteurs. Un recours de protection, ce qu'on appelle amparo au Mexique, a été présenté par sa défense. Il a écrit plusieurs lettres depuis la prison en critiquant la situation d'enfermement. Être prisonnier, c'est être mort en vie. Ils nous maintiennent enfermés sous fausses accusations. Eh bien, pour l'instant, il reste au trou. Luis Fernando, il est également... Il a 18 ans, je précise. Et l'incendie de cet arbre de Noël, c'était une manifestation contre la hausse de 67% des tarifs du métro de la ville de Mexico. Donc, on ne sait pas à combien il est condamné. Allez, on continue le petit tour. Le 17 février 2014 marquait la fin de 40 jours de détention provisoire décrétée par le procureur général de la République contre Carlos, Amélie et Fayon, qui sont actuellement, Amélie et Fayon, toujours dans la prison pour femmes de Santa Marta à Catitla. Ils sont accusés d'avoir lancé le 5 janvier 2014 des pierres et des cocktails Molotov contre les installations du secrétariat des communications et des transports et sur une concession Nissan. Dégâts matériels, sabotage, délinquance en bande organisée et terrorisme. Donc ils ont quand même été relâchés faute de preuves, car il n'y avait absolument aucune preuve contre eux. Ils ont écrit plusieurs lettres. Je vous donne une lettre de Fayon, dont la fille qui était à Santa Marta, un extrait. Et maintenant, ici à Santa Marta, il y a plusieurs quartiers qui vont de A à H. Elle, j'ai dit. Oui, il y a un parc, des appartements et des voisines. Il y a un dépanneur, des travailleuses du sexe, des drogues, un peu partout. Il y a des gens qui reproduisent le rôle de fille et de garçon. Il y a beaucoup de bébés aussi. Il y a aussi une école dans la prison, une clinique, un palais de justice. Il y a des études qui sont menées pour te classifier. Il y a la corruption du pouvoir, formel et informel. Il y a des horaires, beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, beaucoup de temps pour partager des expériences, de la rage et beaucoup de cigarettes et de café à partager. Je ne sais pas si je suis clair, mon espagnol n'est pas parfait, je suis indienne. Mais maintenant, Santa Marta, c'est ma nouvelle vie. A, c'est mon nouveau quartier, 107, c'est mon nouvel appartement, et Amélie, c'est ma voisine. Voilà la pêche qu'ils ont. Voilà quelques exemples de l'arbitraire du système mexicain. Je vous dis quelques cas parmi tant d'autres de gens qu'on finit par relâcher, car il n'y a pas de preuves. Petit tour en Bulgarie maintenant.
Voilà, c'est pour clore l'international. On va en Bulgarie rencontrer un Australien, en fait. Il s'appelle Jock Palfreyman. C'est un Australien qui était venu en Bulgarie en décembre 2007 se balader. Et une nuit à Sofia, il voit deux jeunes garçons roms qui se font agresser par un groupe de hooligans racistes, 16 fachos, hein, qui s'attaquaient à deux jeunes roms. Il intervient, les racistes l'attaquent. Mais le problème, c'est que notre Australien doit avoir une belle carrure, parce que non seulement il s'est bien défendu, et il a grièvement blessé deux de ses agresseurs, dont un mortellement.
Ah merde.
Et voilà. Donc, il se retrouve donc en prison, puisque l'État bulgare décide de protéger les racistes, et lui, il est condamné à 20 ans de prison. Donc c'est quand même 20 ans ferme pour tentative d'assassinat et hooliganisme. C'est les deux raisons pour lesquelles il est en prison. Et là, il y a un appel à solidarité parce que ça ne se passe pas très bien dans la prison. Il a été frappé, alors sans gravité selon ses dires, c'était le 6 juillet. Un gardien qui d'ailleurs avait déjà frappé un vieil homme dans un autre pays, donc c'est un gardien d'un autre pays, pardon, un gardien qui a l'habitude de peut-être les étrangers, on ne sait pas. D'autres détenus l'ont défendu et 40 matons alors ont rappliqué et ont passé à tabac violemment et ben 7 autres d'entre eux. Alors il a appelé les avocats pour se faire défendre et maintenant il est menacé d'en prendre aussi sur lui puisque les gardiens et les matons n'aiment pas qu'on se défende et qu'on appelle les avocats. Alors, le gardien dit d'ailleurs qu'il reviendrait le frapper très tôt. Donc, c'était un appel aussi à faire passer cette information de ce qui se passe et un soutien à Jock Palfreyman. Voilà.
On part au Brésil.
Rico chega na dança
de braço dado.
O diabo enche a pança
de braço dado.
O olho grande a ganância
de braço dado.
Ao dólar reverências
todo arrebaçaiado.
aos juros esconjuros.
Quando o tal sairá?
Isso é o tango no mando. O rico hoje, coitado, é preso todo cercado, arrudiado de grades, porteiro, guarda e alarme. Arranja, senhor, um porto que ele não esteja coado, com um pouco de conforto pra ele estar sossegado. Mas a verbá, a verbé, a verbi, a verborologia dessa política merdia. E a cardiofilosoporria
é o tango lomango.
E é nesse tango lomango
que eu levanto a guarda.
É nesse tango lomango
que eu levanto a guarda.
É nesse tango lomango
que me
vou pra quê? Que me vou pra quê? Me vou, me vou, me vou, me vou. Rico chega na dança
dado.
O diabo enche a pança
de braço dado.
O olho grande a ganância
de braço dado.
Ao dólar reverências
todo arribaçalhado.
Aos juros esconjuros
quando tal sairá?
Isso é o tango lumando. O rico hoje, coitado, é preso todo cercado, arrudeado de grade, porteiro, guarda e alarme. Arranja, senhor, um porto que ele não esteja coado, com um pouco de conforto pra ele estar sossegado. Mas a verbá, a verbé, a verbi, a verborologia dessa política merdia
é o tango lumando.
E a cardiofilosoporia
é o tango lumando.
E é nesse tango lumando.
En 1978, lors du mondial en Argentine, je me rappelle, il y avait des affiches qui pleurissaient un peu partout et qui disaient « Il est hors de question de jouer au football entre des camps de concentration ». En 2014, il y a un mondial au Brésil, ça te, je pense ça a échappé à personne. Et dans le livre dont je vais parler, on voit que rien que dans l'état de Rio de Janeiro, c'est-à-dire la ville de Rio de Janeiro, on trouve 35 prisons. 35, rien que pour cette ville. Ça, je le tire donc du livre dont je voulais vous parler, qui est un livre qui vient juste de sortir, ces temps-ci. Et qui est un livre de William da Silva Lima, au professeur. Le professeur, c'est comme ça, c'est un nom qui lui a été donné par la police, mais qui a été repris par plein de prisonniers depuis. Alors William da Silva, il a passé 40 années en prison depuis les années 60. Son cas vite fait, c'est... ah oui, le livre est sous-titré, donc le livre est sorti chez Insomniac, et il sous-titré la véridique histoire du commando Vermelho, ce qui veut dire du commando rouge. Qui est William donc da Silva? C'est un orphelin qui a été ballotté entre une belle famille à Rio et à Sao Paulo et la rue. Donc il va vite devenir un prolo, quoi, un travailleur, mais un travailleur précaire comme il y en a tant au Brésil. Et suite à quoi il va se faire voleur. Et comme il est très jeune, il va connaître ses premières maisons de correction. Maisons de correction dans lesquelles il y a un entassement absolument effroyable. Suite à quoi, évidemment, la prison étant l'école de ce qu'on sait, il va passer braqueur. Il va aller chercher l'argent où ça se trouve, c'est-à-dire dans les banques. Et alors c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on est au début des années 70, il y a une dictature militaire au Brésil, et on entasse dans ces prisons dont je parle, y compris une qui est située dans une île qui est en face de Rio, on entasse des politiques, il y avait plusieurs guérillas au Brésil, des syndicalistes, et ces petits truands, ces braqueurs, et qui vont commencer à faire une longue suite de tentatives de cavale, et c'est un véritable guide du routard des prisons de l'État de Rio. Et il va même se retrouver à un moment donné balancé dans la prison de l'État voisine de Sao Paulo, la prison de Carandiru. Carandiru, ça vous dit peut-être quelque chose, on en a déjà parlé. Carandiru, il y a eu 111 prisonniers assassinés par la police lors d'une mutinerie en 92. Mmh. Et cette mutinerie avait fait 19 autres mutineries dans tout le Brésil. Donc, comme l'État ne trouve rien de mieux que d'entasser ces gens-là, qui sont les prisonniers qu'il considère les plus dangereux, c'est là qu'entre deux mutineries va naître les premières coordinations, les premiers comités de prisonniers qui vont avoir lieu. En particulier d'abord pour faire régner un ordre interne à la prison. Par exemple, je peux vous lire un extrait de la page 50, vite fait, pour vous dire l'ambiance dans ces années 70. En décembre 74, trois d'entre nous, Antonio do Barros Cavalcante, Francisco Rosa et Rivaldo Carnero, ont été transférés pour une audience devant le juge et provisoirement installée au Galpão. Le Galpão, c'est une prison surpeuplée et à tendance punitive dans laquelle les gardiens sont des fascistes et des brutes déclarés. Quoi. Ils dirent que le moment de tenter une évasion était venu, mais ça s'est terminé tragiquement. Face à la résistance du gardien qui les empêchait de sortir, ils ont pris en otage le directeur de la prison, le colonel Darcy Bittencourt da Costa, et pendant 8h30, assiégés dans la cellule numéro 8 de la galerie B, ils ont négocié leur liberté, demandant un sauf-conduit pour le Mexique. Comme ça s'est fait quelques années auparavant, quand en échange de leur liberté, des politiques avaient laissé la vie sauve à des diplomates étrangers qu'ils avaient pris en otage. Ce coup-là, la décision du gouvernement était tout autre. Le Galpão, donc cette prison, est investi par un important contingent de policiers qui sont mis à tirer dans tous les sens, tuant une douzaine de prisonniers, dont la plupart n'avaient même pas participé aux événements, et tuant le directeur, le colonel lui-même. D'après les journaux, l'assaut à la galerie avait eu lieu à 17h, avait été foudroyant. Pourtant, à 17h15, alors que tout était maîtrisé et que la presse était maintenue à l'extérieur, des tirs ont repris, entre qui et qui, pendant plus de 5 minutes, de manière sporadique, jusqu'à ce que la situation fût sous contrôle. Il n'y a eu aucun témoin de ce qui s'est passé. Toutefois, la famille du directeur, du colonel Bittencourt, de manière significative, refusa les hommages militaires d'usage qui finissent par être entendus par le commandant, par le commandant de la police militaire. Voilà donc l'ambiance expéditive. Ça, c'est dans les années 70. Or, à la fin de la dictature au Brésil, à la fin des années 70, se passe une amnistie, et cette amnistie ne touchera que les prisonniers politiques. Et on laissera tomber les autres. C'est un peu ce qui s'est passé, qui étaient des gens qui faisaient partie des mêmes coordinations au sein des prisons. C'est un peu ce qui s'est passé en Espagne avec la transition démocratique. Et c'est d'ailleurs ce qui, en Espagne, a donné la coordination des prisonniers en lutte après la COPEL. Là, c'est un peu pareil. Le problème, c'est qu'effectivement, les gars se sont trouvés, tous ces petits braqueurs se sont retrouvés tout seuls. Je voulais un autre extrait pour vous donner une ambiance de l'époque. Pendant cette délicate période de négociation et d'impasse, nous dûmes faire face à un grave problème interne. Alors qu'était entamé le processus de réintégration à les autres détenus, un prisonnier de notre collectif agressa un camarade, rompant ainsi le pacte de non-violence que nous avions établi entre nous les prisonniers. Pour aggraver les choses, il adopta une attitude de défi quand on comprit de quoi il s'agissait exactement. Il avait l'appui et était sous influence d'une bande qui tenait la prison d'Illa Grande sous son contrôle, encaissait les amendes, assassinait et violait les autres détenus. Le produit des vols, au moment où nous étions en train de faire des investigations, avait déjà été envoyé hors de la prison. Il s'agissait donc d'une véritable provocation pour nous. Que faire ? Accepter son impunité aurait été un aveu de faiblesse, de désunion et de pusillanimité. Par ailleurs, la seule punition susceptible d'avoir un sens était, hélas, la plus radicale et la plus définitive, la mort. Au contraire des pouvoirs établis, nous n'avions aucune autorité pour exécuter un autre type de peine ou de châtiment. Que faire ? C'est en ces moments critiques que la survie d'un collectif est mise à l'épreuve. Le cadavre du détenu agresseur encore chaud et couvert de sang, transporté par les gardiens au long des galeries, a fait comprendre à tout Illa Grande que nous n'étions ni intimidés, ni soumis, ni en train de jouer. Celui qui, sous nos yeux, voudrait maintenir les vieilles traditions carcérales en violant, agressant et assassinant, devrait se préparer à en subir les conséquences. Comme prévu, la presse et le système pénitentiaire détournèrent ces événements à leur profit. Ils racontaient que nous demandions le statut de prisonniers politiques, mais que nous n'étions que des bandits sanguinaires capables d'éliminer froidement qui s'opposaient à nous. Voilà, c'est pour donner un exemple de à quel point les choses sont compliquées à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'est né justement ce fameux commando vermeil. Alors le commando vermeil, le commando rouge, c'est l'ensemble de c'est une coordination de ces détenus de droit commun, donc de braqueurs. C'est, d'après William da Silva, une invention totale de la presse. Il n'y a jamais eu de nom qui s'appelait commando vermeil. Mais, et il dit, c'est pas un hasard, on nous appelle commando comme si on était une organisation paramilitaire, alors qu'à l'époque, il y avait des organisations paramilitaires d'extrême droite au Brésil, et on nous traite de rouge au passage. C'est destiné à effrayer le lecteur de journal moyen, quoi. Et ça s'est déjà vu ailleurs. La conséquence, si vous voulez, c'est que à partir du moment où ces gens-là se feront appeler le commando vermeil, ils vont reprendre à leur compte cette appellation. Parce qu'il y en a pas mal qui vont arriver à s'évader. Lui-même va arriver à faire une assez belle évasion depuis cette île en question. Et ça va devenir des bandits sociaux des favelas. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller non seulement de gagner la complicité des populations, ce qui est... Vous imaginez que ça demande une certaine redistribution des produits du vol, mais en plus d'alimenter un fonds permanent destiné à aider les prisonniers ou à les aider à s'évader, soit à les aider à cantiner, soit à les aider à s'évader. Et ça va durer des années comme ça. Alors, pourquoi le titre 400 contre 1 ? Ça fait référence à un épisode Ça s'est passé à Trois-Avilles 81, à Illa do Governador, au nord de Rio. Ce sont 400 policiers d'élite de la ville qui, pendant 24 heures, vont faire le siège d'un appartement où se trouve l'un d'eux, José Jorge Saldaña, disait Bigode. Et ça veut dire qu'ils vont, pendant 24 heures, faire le siège de ce gars et le terminer au bazooka. Terminer l'appartement au bazooka. Et que tous les gens qui sont estampillés commando vermeil seront tout simplement abattus à vue par la police. Il raconte l'histoire de plusieurs autres qui, se voyant cernés par les flics, par contre, ont déposé les armes, ont dit les gars, on va discuter, et là se prennent des balles dans la tête. Je rappelle que ces méthodes dont il est question dans les années 80 au Brésil, dans les années 90 au Brésil, puisque ça continue longtemps, elles ont été encore employées récemment au Brésil dans ce qu'on appelait les nettoyages des favelas, et où on voit. Il y a d'ailleurs des photos reproduites dans le bouquin, des policiers de la police militaire posés devant des tas de cadavres de soi-disant trafiquants. On sait ce que ça veut dire dans ce cas-là. Et donc les pouvoirs publics vont veiller à l'extermination de tout ce qui peut ressembler au commando vermeil. Voilà. Lui, il va continuer à... Il s'est évadé, il va se faire reprendre, évidemment, comme souvent. Et le seul rayon de soleil qui va rentrer, c'est une stagiaire du ministère de la Justice, Simone, qui va rencontrer à la fin des années 90 et qui va s'intéresser particulièrement à son cas. Parce qu'en plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce William da Silva Lima, il est poète. Il écrit donc des poésies dans les journaux internes des prisons, ça, il a une assez belle plume, il y en a pas mal qui sont reproduites. Donc va s'en suivre une histoire d'amour entre Simone et William. Elle va arriver à obtenir une chose qui n'était pas évidente, la confusion de ces différentes peines, et donc lui obtenir une liberté conditionnelle. Alors une liberté conditionnelle, si vous connaissez l'histoire du bagne de Cayenne, ça va peut-être vous faire sourire. On est dans la prison dans l'île, la liberté conditionnelle consiste à vivre dans une maison, en face de la prison, dans la même île. Voilà, on reste sur le même territoire. Ça dure un temps. Et puis par la suite... les choses se modernisant, on va lui mettre un bracelet électronique. Il sera ensuite convoqué par un juge pour une vieille affaire. Il se rend à la convocation et pouf, on l'entole de nouveau. Et il va revivre à nouveau des années de prison au début des années 2000. Où il va de nouveau obtenir une conditionnelle, rebracelet électronique, et là il part en cavale, il ne supporte plus le bracelet. Et il va se faire reprendre vers 2011. Et il vit aujourd'hui encore avec un bracelet électronique. Là où c'est piquant, c'est que ce William da Silva, il donne des cours à l'université de Rio, depuis 2013, aux étudiants en droit. C'est-à-dire des gens qui sont des futurs magistrats ou des futurs policiers, en pensant que son expérience de 40 ans de détention, de fait, de détention avec des allers-retours, détention avec des conditionnels, détention avec des bracelets électroniques, mais lui dit que de toute façon il s'agit bien de détention et de la même chose, peut-être son expérience peut servir à ses futurs cadres de la répression. Voilà, c'est une vue du Brésil tout à fait étonnante. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de José Tario, un galicien espagnol, qui raconte aussi toutes ces prisons en Espagne, ce passage par différentes prisons. C'est un peu pareil, mais y a deux choses qui moi, m'ont beaucoup frappé, vraiment beaucoup. C'est d'une part, comment il y avait une entente entre les politiques et les droits communs qui s'est brisée dès qu'il y a eu une amnistie qui s'est déclarée. Et d'autre part, comment le retour à la démocratie n'a strictement rien changé, mais rien du tout, pour le sort des prisonniers. Et en ce qui concerne les plateformes de demande des prisonniers, des revendications des prisonniers brésiliens, ce sont à peu près les mêmes que partout ailleurs. Voilà. Un dernier petit mot peut-être pour vous dire qu'il y a une appendice dans le livre. Enfin, il y a des poèmes de William déjà qui sont très très beaux en général. Mais je vous donne quand même quelques chiffres puisqu'il les donne. Et qu'en ces périodes où le Brésil était à la mode, ben allons-y quoi. L'unité d'incarcération brésilienne fonctionne à fond. Le Brésil a fermé 37 776 écoles rurales ces 10 dernières années. Et a ouvert 201 prisons. Selon le DPEN, le département pénitentiaire national, le Brésil compte un total de 549 577 prisonniers, soit une augmentation de 7% les 6 mois derniers, avec la croissance moyenne de la population carcérale qui croît de 7% par an. La plus forte croissance pénitentiaire du Brésil a eu lieu entre 2002 et 2003 et n'a jamais été dépassée depuis. Cette année-là, 28% de prisonniers en plus. Au cours de la décennie 2003-2012, la population a connu une augmentation de 78%. Sachant que la dictature militaire a pris fin en 1985 et que les premières élections présidentielles au suffrage universel ont eu lieu en 1989, et que Lula da Silva, issu du Parti des Travailleurs, a débuté son premier mandat le 1er janvier 2003, On a de la peine à mesurer ce qui sépare la dictature de la démocratie. Voilà la conclusion de l'éditeur. Donc ça s'appelle 400 contre 1, ou la véridique histoire du commando Vermelho. C'est de William da Silva Lima. C'est un livre assez court qui fait 200 pages, en gros, et qui est voilà, un autre regard sur le Brésil.
Aux éditions L'Insomniac.
Aux éditions L'Insomniac. Et ça se trouve donc... non, Libertad, c'est...
La collection.
Non, c'est le petit dessin qui se trouve là et qui est fait par la fille de William da Silva, qui est une ode à la liberté.
Ah, d'accord.
Non, je disais ça parce que L'Insomniac et Libertalia vont sortir effectivement un livre ensemble prochainement. Voilà, ça se trouve partout. On peut même venir l'acheter au kiosque d'Arnaud Bernard qui est ouvert tous les vendredis soirs.
3 rue Escoussière.
Voilà, au premier étage.
Je ne sais pas l'adresse.
Voilà.
On fait une pause musicale.
Allez, un petit brésilien.
Detenção, um rastro de sangue aumentava o receio, principalmente das famílias dos presos, de que ocorresse uma invasão violenta. Em outubro de 92, 340 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. Eles tentavam controlar uma rebelião que começou depois de uma briga entre chefes de quadrilhas rivais. 111 presos foram executados. As imagens do massacre foram vistas em todo o mundo.
Naquela ocasião, 111 presos foram executados. A rebelião de hoje atingiu 17 presídios em todo o estado.
Já é comigo, na fé, bandido. Sempre tem na frente o inimigo, a polícia assista mais do que ninguém. A favela, um inferno, Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha, a brecha sempre existiu. Em todo o poder, em todo o Brasil. Não sei como expressar, não sei como falar. O ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou. Filho de um doutor, só se for meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar.
Et voilà, on est de retour à Bruit de Tôle, les retours sur l'Hexagone.
Et oui, et donc on va à Nantes ce coup-ci, où ces dernières semaines, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées et jetées en prison pour avoir participé à la manifestation, enfin, ils sont accusés d'avoir participé à la manifestation du 22 février.
Ouais, parce qu'il y en a qui ont des alibis en béton.
Voilà,
plus.
Contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en avait qui n'étaient même pas à Nantes, mais voilà, c'est pas
voilà.
grave. Hein.
Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire par là.
Voilà, donc... Donc voilà, il y a quand même eu pas mal d'arrestations. Donc le samedi 12 juillet, il y avait des personnes qui avaient décidé d'aller manifester leur solidarité aux prisonniers qui sont enfermés dans la nouvelle prison de Nantes à Carquefou, où sont enfermés Enguerrand et Simon, donc qui ont été arrêtés. Donc
au mois de mai, je crois, non, je sais plus.
Au mois de mai, il me semble.
Oui.
Ouais.
Et donc voilà.
Mais
donc...
ça se succède. Il y a eu plusieurs vagues d'arrestations. Mmh. Ouais.
Et donc voilà, donc ils avaient décidé d'aller manifester devant la prison en solidarité. Et ils ont été bloqués par un important dispositif policier donc qui avait pris place à l'entrée de la prison. Et donc ils se sont dit bah c'est pas grave, on va quand même réussir à se faire entendre. Ils se sont frayés un chemin dans les ronces, et oui, pourquoi pas, pour atteindre les abords de la prison. Donc là, ils ont commencé à crier, à des slogans, des feux d'artifice, tout ça. Truc tout sympathique. C'est ce qui était assez sympa, c'est que les détenus ont entendu et ont commencé à répondre aux manifestants. Mais bon, la police n'est pas restée devant l'entrée et a donc fini par appliquer...
Dans les ronces.
Dans les ronces. Bah, ils sont plus équipés, eux, quand même, pour aller dans les ronces. Mais bon. Et donc, ils ont lancé plusieurs tirs de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Mais ça a enflammé les broussailles. Donc, effectivement...
Ah
oui, donc c'est vrai que par journée de grosse chaleur, c'est un petit peu dangereux, donc le cortège a dû se replier, mais a quand même pu...
C'est les flics qui ont foutu le feu.
Ben oui. Mais bon, ils étaient assez satisfaits aussi parce que personne ne s'était fait arrêter pendant le rassemblement, donc ils sont tous repartis pour se disperser, mais au moment du départ, il y a les policiers ont décidé de contrôler une voiture. Ils ont fini par embarquer un homme, parce que ce malheureux gars portait un Opinel dans sa poche. Donc, il conclut en disant qu'ils reviendront à plus et qu'ils continueront à manifester leur solidarité à leurs camarades emprisonnés.
Voilà, ça c'était donc à Nantes. À Calais, on en parle souvent. Eh bien oui, par exemple, là, c'est l'occasion d'un nouveau squat. C'est la manif du 12 juillet. C'était une manifestation, donc, malgré les menaces d'interdiction par la mairie et un arrêté anti-regroupement, plusieurs centaines de personnes se sont donc rassemblées contre les rafles et en solidarité avec les migrants. Parti de la place d'Armes, donc du centre, le cortège est passé devant la mairie, puis a pris de petites rues jusqu'à l'impasse des Salines. Et au bout de celle-ci, eh bien, c'est les bâtiments abandonnés de l'ancienne usine Galou Littoral qui sont en fait occupés depuis 48 heures et qui ont ouvert leurs portes aux manifestants. Suivi une assemblée générale, une fête, avec comme mot d'ordre la solidarité et la rencontre qui tisse une soirée qui prend les couleurs de l'espoir. Espoir qui sera peut-être dès demain barré par la l'intervention de la police, l'expulsion, la rafle, mais espoir que nous emporterons chevillés au corps dans l'errance ou dans le énième recommencement et que nul ne saura nous prendre. Et en effet, le procureur a décidé d'envoyer un huissier pour constater l'occupation du lieu. Mais cela veut dire que les occupants ne sont pas en flagrant délit et que est reconnu en effet qu'ils sont domiciliés au 10 impasse des Salines et que le squat tiendra donc le coup jusqu'à la procédure d'expulsion
qui peut être rapide malgré tout.
Qui peut malgré tout être rapide, mais c'est intéressant cette solidarité, la manif, etc. Et ça c'était à Calais.
Et surtout que ça fait suite, puisqu'on n'a pas pu faire d'émission la semaine dernière, ça fait suite à la grande rafle qui avait eu lieu il y a 10 jours.
Bien oui.
Ouais.
Partout, ouais. Et alors, là, on s'organise. Et puis là, c'est le tribunal de Bobigny sur violence en réunion avec Flashball. Eh oui, alors violence en réunion avec Flashball, c'est pas les manifestants qui sont désignés,
c'est
ce sont
flics.
Bien les flics. Ah ouais. Alors, on rappelle les faits, c'était le 8 juillet 2009 à Montreuil. Des gens qui étaient dans la rue pour protester contre une expulsion. Les flics sont arrivés sans sirène ni gyrophare, se sont garés près de cette clinique, qui était le lieu occupé donc, et sont sortis de leur voiture équipés de leurs flashballs. Et alors que les gens commençaient à sortir, eh bien, ils ont tiré dessus, dans le dos souvent, à hauteur de visage. Ils ont touché 6 personnes, dont 5 au-dessus de l'épaule. Front, nuque, œil, clavicule, épaule. Joachim, lui, touché à l'œil, s'est effondré devant eux. Peu importe, ils n'ont pas porté secours et ils ont continué à tirer. 5 ans plus tard, le 4 avril 2014, la procureure avait pointé tout de même la gravité des faits et demandé le renvoi du policier qui a tiré sur Joachim devant la cour d'assises. En revanche, elle avait requis un non-lieu pour les 2 autres policiers. Ben, le 10 juillet, la juge d'instruction, elle, a rendu sa décision. Elle renvoie devant le tribunal correctionnel les 3 policiers mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et insiste sur la responsabilité de la hiérarchie. D'une part, elle admet qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, ni d'une bavure, mais d'un cas avéré de violence en réunion par des policiers armés de flashballs. Rappelons-le encore une fois, ce soir-là, 6 personnes ont été touchées par des tirs de flashball, dont 5 au-dessus de l'épaule. Donc s'il y en a qu'un qui a perdu son œil, Joachim, tous les autres tirs auraient pu blesser grièvement. Donc, en signalant ces nombreuses anomalies qui caractérisent cette opération de maintien de l'ordre, la juge d'instruction révèle que la hiérarchie policière est compromise aussi dans les violences de ce soir-là. Le renvoi de 3 policiers devant les tribunaux et la mise en cause de leur hiérarchie est un fait rarissime. Car en effet, combien de familles endeuillées et de personnes mutilées attendent indéfiniment que la police reconnaisse le tort qui leur a été fait ? Le dernier en date concerne par exemple Lamine Dieng, mort étouffé dans un camion de police. Et le 25 mai dernier, la juge prononçait un non-lieu 7 ans après 7 ans d'instruction. Donc voilà, le renvoi de ces policiers devant le tribunal est quand même un fait trop rare pour que la partie civile ne s'élargisse, au moins symboliquement, aux autres victimes de la police laissées pour compte par la justice. Donc ils demandent à ce que collectivement, on puisse se défendre à l'intérieur ou à l'extérieur des tribunaux. Donc c'est un fait intéressant sur ce tribunal de Bobigny, surtout qu'il condamne... Le gouvernement veut continuer à équiper la police, par exemple, de ces nouveaux modèles de flashball, là, les LBD, c'est-à-dire lanceurs de balles de défense, et qui étaient en action à Nantes.
Et qui ont une portée bien plus importante.
Oui. Donc le procès qui s'annonce est l'occasion de rappeler la fonction réelle de ces nouvelles armes qui, soi-disant, reposent sur la peur, mais sur la mutilation et en un mot sur la terreur. Et plus généralement aussi de mettre en lumière, les violences qu'exerce quotidiennement la police et l'impunité quasi systématique qui les accompagne. Ce que disait la dernière émission l'avant-dernière de Brut Talk, Mathieu Rigouste, en disant il n'y a que des faits. Il suffit d'énumérer les faits et de voir que quasiment c'est des non-lieux, des relax, etc. Alors qu'il y a en face des blessés.
Il est même piquant de constater, parce que j'ai mauvais esprit, que là, les flics sont renvoyés devant le tribunal. Il s'agit bien d'un jeune homme blanc qui est français de souche, comme disaient les FAF.
Voilà, très soutenu.
Et qui est, et qui est même le petit-fils de quelqu'un de connu. Voilà.
Mais bon, si ça peut servir d'exemple pour...
Si ça peut faire jurisprudence, c'est toujours ça de prix.
Jurisprudence contre ces attaques, voilà.
Alors, on est un petit peu en avance, mais c'est quand même un peu la fin de Brut Talk.
On pourra passer le générique en entier, dit.
Et oui, ça nous changera. Donc, vous écoutiez Brut Talk sur Canal Sud 4...
Ah. J'ai juste une petite remarque.
Allons-y.
C'est que j'ai été au Festival Résistance de Foix et j'ai vu le film de René Clément, À nous la liberté.
Ah, tu l'avais jamais vu ?
Non, je l'ai vu en intégrale. Mais c'est vrai notre générique est mieux chanté que dans le film parce que générique sert en fait de scénario presque dans le film et c'est plusieurs voix qui le prennent et le reprennent.
Et surtout, ils viennent toujours de manière hachée dans le film.
Voilà. Tandis que là, vous allez avoir l'occasion de l'entendre en entier. Excusez-moi pour cette interruption.
Mais on a le droit de conseiller des films.
C'est la séquence du cinéphile.
Voilà. Et donc vous écoutiez Brut de Tôle sur Canal Sud 92.2. La rediffusion c'est le vendredi de 17h à 18h. D'ici la semaine prochaine, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un courrier à Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou si vous êtes équipé d'internet, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à Bruit de Tôle, bruit avec un S, de Tôle, D-E-T-O-L-E-S, @no-log.org.
Et puis si, quand on devient des brouilleurs, normalement, ça va se trouver sur le site de Radio Canal Sud, sur canalsud.net.
À bientôt.
Ciao.
Copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter. Partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce. Vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter. Partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait.
Une, alors non seulement vous aurez le générique en entier, mais en plus vous aurez Route 66 à l'heure. C'est dingue. Oui.
Tentons-nous d'amour sans.